avec qui se marre dans les castes. Nos cerveaux excitent à l'envie pour nous défaire la vie. Ce triste, la vie serait moche. Alors, alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Nietzsche.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et débats du jour qui commence avec aujourd'hui un invité unique puisqu'il s'agit de C215, de son nom Christian Guémy, qui nous propose un livre particulièrement intéressant qui s'appelle L'art de s'effacer, qui paraît aux éditions Pyramide, où il parle de lui, de sa démarche artistique et nous fait part de ses réflexions sur le monde de l'art. C'est un ouvrage passionnant qui, moi, m'a beaucoup touchée. Je suis très contente d'avoir pu faire cet entretien avec lui. Voilà. Puis en deuxième partie d'émission, nous retrouverons Gérard Guégan pour sa première chronique de l'année et nous parlerons de deux ouvrages que nous aimons. Il s'agit du livre de Jérôme Garcin qui est paru chez Gallimard et de celui de Philippe Besson qui est paru chez Julliard. On retrouve tout de suite Christian Guémy. Toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, avec le grand plaisir de retrouver Christian Guémy pour un livre que j'aime énormément, qui s'intitule « L'art de s'effacer » et qui est paru chez Pyramide. L'art de s'effacer, ben, on va être amené à parler du titre, mais avant d'aborder le titre et le propos du livre, je crois que c'est important de préciser pour nos auditeurs qui ne connaissent pas encore cet ouvrage de Christian Guémy, qu'il se présente sous la forme épistolaire. Alors, moi, je trouve ça très, très important. D'abord parce que je suis quelqu'un qui aime écrire des lettres, qui aime en recevoir aussi, même si ça se fait quasiment plus, que je regrette d'ailleurs, parce que c'est chouette de recevoir des lettres. Et puis, quand on prend cette forme d'écriture, d'écrire des lettres, déjà, on s'adresse à quelqu'un. On n'écrit pas comme ça. Et c'est très très important, et c'est important aussi avec le contenu du livre. Alors on va être amené à en parler, parce que je trouve, Christian, que ce qui émerge, c'est que dans une période où prédomine la communication, toi tu t'établis dans la relation, ce qui est complètement différent, et la forme choisie des lettres est une forme de relation, d'être en relation avec l'autre, de lui écrire, et le lecteur qui n'est pas le destinataire de ces lettres, retrouve quand même sa place dans ces lettres qui, d'une certaine manière, lui sont aussi adressées.
Alors, c'est vrai que, bon, déjà, ce livre, il naît d'une relation. Donc, c'était normal qu'il en restitue finalement la teneur, puisque c'est un livre qui m'a été commandé, en quelque sorte. Un ami, éditeur, curateur d'expositions muséales autour de l'art urbain en Italie, qui s'appelle Stefano Antonelli, et qui est un spécialiste de Banksy et d'Obey, mais en particulier de Banksy, et qui a publié plusieurs ouvrages sur Banksy, m'a demandé si j'étais capable de réaliser un livre sur théorique sur l'art au XXIe siècle, l'art et la condition d'artiste. Et ça procédait, d'abord, ça procédait d'une bonne intention de sa part, mais je lui ai dit que ça se faisait plus, qu'on n'était plus du temps de Paul Klee, Kandinsky, ou des traités d'architecture et de peinture de la Renaissance et de l'âge classique. Plus personne se roulerait là-dedans. Mais je lui ai dit, voilà, en plus, tu sais, moi, je commence à prendre mes distances et j'ai eu pas mal de désillusions sur ma pratique d'artiste et de pochoiriste et d'artiste urbain. Je vois quand même, maintenant, j'ai quand même une certaine expérience qui fait que je relativise pas mal de choses et que je vois pas comment on pourrait exprimer les choses d'une manière catégorique et absolue. Et là, il m'a dit, mais c'est exactement ce que je veux entendre, en fait. Mmh. Il m'a dit, ça parle vraiment, je pense, du 21e siècle. Donc, est-ce que tu pourrais faire un bouquin là-dessus? J'ai dit, moi, je peux pas faire un livre comme ça, m'adresser à qui? Il faut que ça reste aussi quelque chose de très ancré dans la réalité. Et donc, au mieux, je peux t'écrire des lettres. Et on s'appellera quand je t'enverrai les textes l'une après l'autre pour qu'on en discute, et ça m'aidera peut-être à trouver ce que j'ai à te dire dans la suivante. Et voilà comment le livre est né. Ce sont donc 7 lettres adressées à mon ami Stefano.
Alors effectivement, ce sont des lettres adressées à Stefano qui vont dépasser largement le champ théorique de ce qu'est le street art depuis le début de ce mouvement, mais qui vont, ça va en parler quand même, mais avant d'aborder la partie purement street art, ce qui est important de préciser, c'est que tout est également dans le titre, l'art de s'effacer. Et tu évoquais le fait que toi, tu étais pochoiriste, et je crois qu'il faut l'évoquer, que c'est très très important, parce qu'on en parlait un petit peu avant de commencer cet entretien. Il y a le plein et il y a le creux, et il y a tout ce qu'il y a dans le creux que tu ne mets pas forcément, comme dans le pochoir, le plein et le creux, et tout ce qui est présent et tout ce qui s'efface. Et je trouve que ce livre n'est pas un livre sur le street art, pas du tout. N'importe qui, même sans connaître cette discipline, peut trouver un intérêt à lire l'art de s'effacer.
Ben, j'ai essayé d'écrire quelque chose qui soit une sorte de mise au point de mi-parcours de vie et déjà d'une certaine période assez accomplie de ma, j'aime pas le mot, mais carrière d'artiste. Et carrière, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on creuse.
On creuse, oui. Donc on creuse un peu. La pierre, c'est Sisyphe, là.
On creuse un peu son trou, en quelque sorte. C'est sûr que je travaille sur un outil qui est très, très particulier. Je crée chacun de mes outils, ce sont des pochoirs, et je passe mon temps à évider du papier ou du carton pour réaliser des outils en négatif, en creux, par du vide, pour dessiner ensuite du plein, en apposant cet outil contre un support, puis en le retirant. Déjà, l'outil lui-même, on en voit la trace, on le devine, mais on le voit jamais. Donc lui-même, déjà, il procède d'un effacement. Et puis, il est clair que, à la base, par timidité, par aussi manque de confiance en soi, certainement dû à un sentiment d'imposture qu'on peut avoir lorsqu'on vient d'un milieu populaire et que tout à coup, on se risque à devenir artiste.
À sortir de sa classe.
Ça me convenait parfaitement que d'aller poser des œuvres dans la rue et de m'effacer aussitôt. C'est-à-dire de partir et de ne pas me confronté à la vie des autres et aussi quelque part à des processus d'élimination dont je sais depuis qu'ils sont complètement liés à de la cooptation sociale. Donc j'avais cette intuition que par la rue on pouvait briser en tout cas toutes les digues qui pouvaient être liées à la réalisation d'une carrière d'artiste lorsqu'on vient d'un milieu populaire. Et ça a été le cas. Mais l'art de s'effacer, ça valait vraiment pour à plusieurs niveaux. Je veux dire que c'était quand même aussi l'idée que les œuvres, lorsqu'elles sont peintes dans la rue, déjà, elles peuvent être effacées au sens propre. Et de toute façon, elles s'effacent progressivement de par le temps, l'usure, le remplacement, les destructions de murs et d'immeubles et tout le reste, la transformation de l'environnement urbain. Donc il y avait cette dimension-là ancrée dans ma pratique et aussi, à titre personnel, dans un stade d'évolution de ma vie, peut-être la volonté par moi-même déjà de me mettre, de commencer en tout cas à me mettre en retrait et à l'organiser, parce qu'il ne s'agit pas de disparaître, il s'agit de s'effacer, donc de progressivement ranger un petit peu son bureau lorsqu'on sait qu'on va prendre sa retraite dans quelques temps. C'est un peu ça, c'est le moment où on s'organise un peu, on organise sa retraite. Ouais. Je recommande à tout le monde de ne pas penser à la retraite trois semaines avant d'y accéder. Et aussi, à titre personnel, quand même un certain retrait aussi pour ce qui est de l'évolution de la société, où je sens, à titre personnel, que je commence à perdre les codes. À perdre les codes, à ne pas pouvoir suivre, à ne pas accrocher à certaines évolutions, notamment autour de la perte de l'intimité lorsqu'on est un personnage public. Peut-être même aussi à une abolition progressive des codes de la pudeur. Moi qui n'ai jamais vraiment été très ostensible sur ma visibilité corporelle, je ne me suis jamais vraiment mis en avant physiquement parlant. Je ne fais pas de selfie, je ne pose pas, j'apparais très peu dans les vernissages.
Tu n'es pas derrière des lunettes noires reconnaissables par tous.
Voilà, j'ai pas de caractère distinctif qu'on pourrait me reconnaître à 300 mètres. Il n'y a pas de mise en scène de mon personnage d'artiste, bien au contraire, puisque j'essaie peut-être par névrotiquement de rester conforme à ce que j'ai été quand j'ai été élevé. Je m'habille avec des vêtements neutres, de couleur grise ou bleue, achetés dans des supermarchés, avec des fringues très, très modestes et pour me fondre dans le décor. Et si j'avais une forme d'ego, ça serait plutôt celui de la... Voilà, du camouflage, en quelque sorte. J'aime beaucoup l'idée de me fondre.
Et ça rejoint, je me permets de t'interrompre, ça rejoint la pratique artistique, parce que quand tu évoquais le fait de faire du pochoir dans la rue et de voir le temps faire son œuvre, moi, je trouve que c'est une démarche intéressante. Bon, j'en avais parlé avec Ernest Pignon-Ernest aussi, qui pratiquait
exactement... Un immense artiste.
Voilà, quelqu'un que j'adore, un mec remarquable et adorable. Et c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a l'œuvre de départ qui est donc sur un mur, et il y a ce qu'elle devient, et ce qu'elle devient fait aussi partie de la démarche artistique, parce que elle subit les métamorphoses, elle subit les évolutions jusqu'à disparaître ou pas, mais en tout cas c'est un processus dynamique. Et je trouve que le parallèle qu'il y a avec ce qu'on peut vivre est important aussi. Nous aussi, on est comme ça, on est pas mal, et puis on vieillit, et puis il y a le temps qui nous transforme, qui nous modifie. Et moi, je suis assez agacée de voir que certains peuvent voler les œuvres des rues pour les mettre sous plaque, pour les cacher, pour les immobiliser, et ne pas laisser vivre le destin de certaines œuvres.
Après, je pense que ça participe aussi de leur illusion, parce que...
Figer le temps.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de névrose moderne où on voudrait tous, enfin, pas moi en tout cas, rester jeune, identique à ce qu'on a été, dans un âge d'or perpétuel, avec un futur infini, un accomplissement sans fin de l'humanité, un développement, une croissance, on parle même... infini, une volonté de faire d'allonger la vie et de faire durer tout ce qui pourrait relever de la jeunesse, alors qu'en fait, à titre personnel, moi, ce qui me fascine dans l'esthétique, c'est précisément l'anéantissement. Je crois pas qu'il y ait vraiment de grand art qui ne soit pas quelque part une réflexion, une réponse qui soit apportée à la mort. J'ai quand même le sentiment que le vrai, enfin les grands sujets de l'histoire de l'art, il y a l'amour, la mort et la guerre qui en résulte, en quelque sorte. Hein. Donc, c'est vraiment des sujets centraux. Et la mort, en particulier, c'est quand même un thème qui, pour un grand nombre d'artistes depuis l'aube des temps, est au cœur de nos œuvres. Et personnellement, il y en a qui tentent de répondre à la mort de manière un petit peu vaine en s'érigeant des mausolées. Moi, je trouve beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fascinant, quelque part, la dislocation de chacun en des particules et en des atomes qui existent depuis des milliards d'années.
Depuis les étoiles et qui continuent.
Des milliards d'années. Donc, en fait, il y a cette espèce de chose où on voudrait être influent et imprimer quelque chose alors qu'il n'y a rien à imprimer et que tout est déjà tracé, on existe déjà de toute éternité, on continuera à se transformer, à se volatiliser. Et ça, voilà, moi je trouve que c'est le vrai grand sublime, c'est celui de l'amour et du cosmos, quoi. Voilà, j'ai une petite pratique artistique qui consiste à aller au coin d'une rue, de prendre des bombes, du pochoir, de peindre quelque chose de fragile, qui puisse être détruit, qui puisse être transformé, qui puisse même être volé, pour qui pense le voler. Mais ils volent rien du tout, parce qu'ils volent rien du moment où je l'ai peint, ils volent rien de l'intention que j'ai pu avoir.
Du souvenir et de la trace que ça a laissé chez les gens qui l'ont vécu. C'est ça qui compte.
Et voilà, moi je sais pas si le parallèle peut être dressé, mais... C'est Heinrich Heine qui parlait des douaniers et qui disait douanier, tu peux contrôler mes valises, mais tu ne sauras pas ce qu'il y a dans mon cœur.
C'est tout à fait ça.
Et ouais. c'est un peu ça. Donc moi je vis une aventure simple, personnelle, certainement fragile, peut-être discutable. Ça reste une œuvre d'art quand même, je l'espère. Mais sans grande prétention. Même encore aujourd'hui, c'est quand je suis amené à m'exprimer sur les questions mémorielles, puisque je réalise de plus en plus d'œuvres mémorielles.
Oui, l'œuvre que tu as faite là au mémorial de la Shoah est absolument remarquable.
Mais j'essaie de montrer que le mémorial ne parle que du présent, que de l'instant même que l'on est en train de vivre dans la question mémorielle. Et que peut-être tous les débats autour de boulonner, déboulonner les statues comme on l'a aujourd'hui, ça ne parle que de la vanité du procédé de la statue, qui est d'inscrire dans la pierre, donc de figer les choses dans une volonté d'éterniser la mémoire, alors que le street art, en tout cas, il peut traiter des questions mémorielles dans le présent, dans des interstices urbains, avec une révocabilité de l'œuvre qui vaut pour ce qu'elle est aujourd'hui et qui, quelque temps ensuite, change de nature, parce que la mémoire évolue. Voilà, j'aime cette relativité, j'aime cette fragilité, aussi bien des œuvres et des existences. Rien n'est acquis. A perfect body.
Et puis moi, je dois dire, en tant que spectatrice qui apprécie ce que tu fais, que quelque part, je vis ça, moi, comme plein de clins d'œil. Je vais te donner un exemple, le dernier. Je suis allée interviewer chez Gallimard un monsieur qui s'appelle Kerwin Spear, qui est un spécialiste de Romain Gary et qui fait une trilogie sur Romain Gary. Il vient de sortir son deuxième livre. Je sors du métro rue du Bac, je tombe sur quoi ? Sur ton portrait de Romain Gary.
Ouais.
Et je me dis, ah ! Clin d'œil, quoi, c'est super. Et le fait que de voir comme ça, d'un seul coup, la vie qui apparaît.
Mais c'est exactement, quand tu dis la vie qui apparaît, c'est exactement ça, parce qu'en fait, il y a le miracle. Moi, je pense que la vie humaine et la vie tout court, parce que réduire la vie à celle de l'humain, c'est déjà ridicule. La vie et les conditions d'existence de la vie relèvent de l'improbable et du miracle qui s'est accompli. Et ça vaut aussi à une minuscule échelle pour celle de, notamment de ce portrait de Romain Gary, parce que à cet emplacement, c'était une boîte à feu qui était couverte depuis des années par des lasagnes d'affiches publicitaires. Et depuis que j'y ai posé ce portrait, alors que je pensais qu'il n'allait pas durer plus de quelques jours, ça fait maintenant plus d'un an,
ouais.
Et il est intouché. C'est-à-dire que ce qui m'étonne dans ce cheminement et qui renvoie également à la dimension métaphysique de nos vies, c'est que ces œuvres, elles sont peintes à hauteur d'homme, extrêmement fragiles, très superficielles, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas de consistance. Un enfant, n'importe qui peut les détruire. Et même si je sais que les gens réagissent beaucoup lorsqu'une d'entre elles est détruite, mais en réalité, ce qui est surprenant, c'est qu'elles persistent et qu'elles perdurent et qu'elles sont épargnées.
Mais parce qu'elles nous parlent.
Je reviens pas. Et à chaque fois que je croise une de mes œuvres, je me dis, mais c'est dingue qu'elles soient encore là. Et quelque part, ça vaut aussi un peu chaque jour quand on voit qu'on a créé les conditions de la destruction, non seulement de l'humanité, mais quasi de la vie sur Terre depuis l'ère nucléaire. Et ben voilà, il y a le miracle qui fait qu'on a tout pour s'autodétruire, mais que ça continue et ça donne une bonne raison d'espérer.
Oui, ben c'est pour ça que je disais que tu étais non pas dans la communication, mais dans la relation, parce que tu arrives à toucher l'autre, quel qu'il soit, l'inconnu qui passe, à hauteur d'homme. Voir ce que tu fais, suscite chez l'autre une émotion. Il y a un truc en commun. Toi, tu as éprouvé quelque chose en le faisant, et ce que tu as ressenti, eh ben, c'est quelque chose que la personne ressent aussi, et c'est ça qui fait le lien.
Sur la question de l'échelle, même si je me suis essayé à réaliser quelques grands murs, et que je le ferai encore, parce que quelque part, j'aimerais aussi essayer de faire perdurer quelques-unes de mes œuvres, je sais que ça a été aussi très important pour moi que de réaliser des œuvres qui soient non seulement à hauteur d'homme, mais plus petites que l'homme. Parce que je connais, enfin, depuis Burke et tout ça, on sait que ce qui est plus grand que l'homme l'écrase, c'est la question du sublime. Tandis que ce qui est petit pourrait peut-être attendrir et sembler pittoresque. J'ai voulu faire des œuvres sur lesquelles on se penche, en fait, et qui tendent pas à écraser l'autre, en fait, en quelque sorte. Je préférais me livrer au travers de mes œuvres dans des œuvres qui étaient fragiles et vulnérables. Ça, c'était important. Et non pas dans une recherche de puissance. Et si aujourd'hui, par un certain maillage, du fait qu'elles soient épargnées, il y a beaucoup de mes œuvres, paradoxalement, ça m'échappe complètement. Parce que j'ai commencé à créer ces œuvres-là et sur ce process-là en me disant qu'elles ne dureraient pas. Donc, étonnamment, ça me frustre un peu de voir qu'elles perdurent autant. Et de plus en plus, à part pour certaines, dans les symboliques, lorsqu'elles sont attaquées.
Oui, on a eu quelques exemples frappants. Oui.
Lorsqu'elles sont attaquées pour les valeurs qu'elles sont supposées représenter, notamment le droit des femmes à disposer de leur corps, le combat contre l'antisémitisme, toutes ces choses-là sur lesquelles je céderai rien. Mais lorsque la même œuvre est effacée naturellement ou malencontreusement sans malice, eh ben là, je ne proteste pas. J'ai refait nombreuses reprises le portrait de Simone Veil qui se trouvait sur une boîte à feu rue d'Ulm. Parce que il avait été à chaque fois dégradé avec des messages contre le droit à l'avortement ou pour des raisons antisémites. Et bien, depuis quelques semaines, personne ne le sait, mais il a disparu parce qu'en fait, ils ont plus ou moins changé les portes de la boîte, donc sans malice, et je l'ai dit à personne.
D'accord.
Parce que là, en l'occurrence, c'est une mort naturelle.
Ouais, c'était pas agressif. Alors, on a dit, Christian Guémy, c'est 215, que le livre paru chez Pyramide s'appelait « L'art de s'effacer ». Il témoigne aussi de ta volonté de manifester le fait que tu arrives à un moment où tu veux plus de ce jeu. Entre le moment où tu as commencé à travailler et maintenant, sont apparus les réseaux sociaux. Pour toi, ça a été un changement important parce que tu te retires de ça. C'est quelque chose que tu veux quitter. Tu le dis ouvertement d'ailleurs. Tu ne répondras plus sur les réseaux sociaux. Tu continues de communiquer, bien sûr, parce que ça fait partie de ton travail. Mais tu ne t'exposes pas personnellement. Tu n'exposes pas ta famille. Tu n'exposes pas ta vie privée. Et tu ne rentreras plus dans ces polémiques infernales qu'on a pu connaître.
Alors, en fait, c'est vraiment un repentir, parce que j'ai précisément fait partie de cette génération qui ont mis en place les réseaux sociaux.
Au début, oui.
Il y a une vingtaine d'années. Donc, il y a une vingtaine d'années, on a découvert ça, on a émergé grâce à ça. Je le dis ironiquement, et ça vaut pour plusieurs des aspects qui sont dans ce livre, faut pas croire que je crache dans la soupe, parce que j'en suis l'un des croutons. Hein. C'est vraiment une sorte de repentir qui relève d'un constat à la Frankenstein. On a mis en place des réseaux sociaux pour mettre précisément en place une certaine horizontalité, un peu comme les œuvres étaient à hauteur d'homme, une horizontalité qui nous permettait de nous affranchir des verticalités, donc de toutes les hiérarchies et de toutes les digues qui pouvaient empêcher certaines idées, certaines œuvres, certaines mises en relation d'émerger. Et en fait, la chose a pris une tournure extrêmement individualiste qui a surtout servi à mettre en place une sorte de d'horizontalité Mais narcissique.
Narcissique, oui, c'est ça, c'est chacun.
Où chacun, finalement, ne communique quasi plus avec les autres.
Se sert de l'autre comme tremplin pour se mettre en avant.
Sinon, pour se mettre en avant et d'une manière extrêmement formelle. On le voit bien avec la question du selfie. Il est fort probable que la seconde catégorie de photographie qui circule sur les réseaux sociaux, c'est la photo de vacances qui montre bien j'y étais et qui montre un peu sa position sociale, voir ce que j'ai mangé, mais aussi d'une manière quelque part aussi extrêmement narcissique. Bon, ça allait encore, je trouve ça pouvait sembler sympathique, mais je pense qu'il y a eu certains réseaux sociaux sur lesquels moi j'ai pas pu m'adapter, où j'ai refusé immédiatement. À partir de Snapchat, à peu près. Snapchat et TikTok, où en fait il n'est plus question que de partager des instants de vie, d'intimité, de dévoiler ce qu'on fait, et parfois même sans objet. Voilà.
Il y a une perte de sens.
Il y a une vacuité, ouais. Et puis un égocentrisme qui font que bon, moi je me reconnais plus. Peut-être que les nouvelles générations qui sont en train de croître là-dedans vont trouver leur repère et puis leur distanciation, mais comme j'ai pas les éléments pour me distancier, ben voilà, je suis pas monté dans ce bateau. Donc voilà, j'en fais le constat, ça y est, je pense qu'on comprend à peu près à quelle époque on a appartenu à partir du moment où on se ressent plus de l'époque qui se mit. Quelque chose est fini et j'en suis très heureux. Je sais que beaucoup de gens, parce que je parle pas que j'espère ne pas parler que de la vie d'artiste quand je dis tout ça, parce que je pense que c'est la vie d'un peu tout le monde. Beaucoup de gens peuvent vivre assez mal le fait que sa période elle soit finie. Moi, je sens bien que ce que j'ai fait, ça appartient plus déjà au passé. Qu'à l'avenir. Et en tout cas, je vais faire évoluer mon travail pour que, en quelque sorte, il y ait une adaptation à une sortie progressive du champ. Alors bon, ça va certainement être plus institutionnel, peut-être plus figé, peut-être plus distancié précisément de ce qu'a pu être la pratique du street art tel que je l'ai pratiqué longtemps, avec énormément de spontanéité dans les rues, et voire même de quelque part d'autocratie, quoi, en quelque sorte.
Oui, mais chaque âge a un besoin particulier. Bon, on le voit en lisant de l'art de s'effacer, parce que tu livres des éléments personnels importants.
Excuse-moi, je voudrais juste vraiment dire une chose, c'est que il me semble que l'évolution de mon travail sur ces 20 années écoulées et sur celle qui viendra, ça correspond à un art de s'effacer. Parce que ce que je voudrais aujourd'hui, c'est continuer, certes, mais déjà moindrement. Là, j'évacue des échéances qui avaient été programmées de longue date cette année, peut-être un peu l'année prochaine encore, mais c'est quasi fini. Et surtout, me mettre au service. Ça participe aussi de s'effacer. Ce que je voudrais, c'est être de plus en plus utile et peut-être de moins en moins aux commandes de ce que je peux réaliser, et de pouvoir offrir mes services en quelque sorte, notamment sur le plan institutionnel et mémoriel en particulier, pour des valeurs, dans des processus de décision et de création dans lesquels je ne suis que l'un des déterminants.
j'allais dire, te mettre au service, c'est quand même quelque chose que tu fais depuis longtemps. Je pense aux ateliers que tu peux faire en prison,
oui.
Ce genre de choses. C'est un trait de toi,
oui,
ça,
c'est une évolution.
D'être au service.
Bah, oui, parce que j'ai peint dans 25 prisons.
Oui.
Et dans certaines prisons, j'ai fait jusqu'à 30-40 portraits. Alors, lorsqu'on vient peindre bénévolement dans les prisons, il ne faut pas croire qu'on a carte blanche. On a une carte blanche, mais tu es tout à fait circonscrite.
Oui.
J'ai donc pris l'habitude et je me suis habitué finalement à ce que je puisse peindre dans un cadre.
Mmh.
Même si au départ, l'un des principes du street art, c'est de sortir du cadre. Mmh. Bah, peut-être que je vais sortir de plus en plus du street art pour me conformer à une pratique qui est peut-être plus traditionnelle, qui est de dire voilà. Bon, moi j'ai quand même des repères autour de mes valeurs, et notamment autour de la représentation qui sont très 20e siècle. Moi je crois en la démocratie, je crois en la République, cette entité qui fait que, bon, comme on peut, sans perfection aucune, on tient ensemble les uns à côté des autres en tentant de s'accrocher à des valeurs et à des objectifs. Ce sont des objectifs, la liberté, l'égalité et la fraternité, pour lesquels il faut lutter sans cesse. Je crois à la solidarité, d'une manière générale. Je crois au fait qu'on doit encore, ça fait certainement quelqu'un du XXe siècle, on doit s'accrocher au fait qu'on ne peut pas se mettre dans des cases compartimentées autour de quotas et toutes ces choses-là, et qu'on doit autant que possible s'attacher aux personnalités et aux qualités individuelles. Et non pas regarder les questions d'étiquettes, ouais, ethniques, religieuses, de genre, sinon d'âge, et toutes ces choses-là. Donc voilà, je m'engage de plus en plus pour des valeurs qu'on appelle républicaines, même si ça peut sembler ringard. J'ai pas peur d'être ringard, en fait.
Moi non plus.
je pense même que... Je pense que j'ai vraiment absolument pas peur ni d'être ringard, ni de le devenir. Je pense que je l'ai toujours été. Et ça me va. Je suis bien. Je suis bien dans ce que je fais. Donc là, je vais essayer de travailler de plus en plus sur les questions d'inclusion dans les quartiers, mais notamment avec pour l'armée française, parce que je pense que c'est une institution dont la perception doit changer, parce qu'on n'est pas un pays belliqueux déjà. Et que dans un contexte où l'abomination passée du service militaire, dans lequel tout un tas de jeunes gens avaient été broyés, est révolue, et qu'aujourd'hui on a une armée de métiers qui ne distingue ni les races, ni les couleurs, ni les religions, ni les provenances sociales, et qui peut permettre à tout un tas de jeunes gens et de jeunes filles également de trouver leur place dans un monde un peu compliqué, peut-être de fournir une ossature et d'intégrer les nombreux métiers qui ne sont pas que soldatesques, qu'il peut y avoir dans l'armée, et de fournir une famille à des gens qui, comme moi en tout cas, ont été en mal de repère un jour, provisoirement, parce qu'on est, on est militaire, mais ça ne dure pas. C'est des choses c'est comme les footballeurs, les militaires.
C'est des carrières courtes.
C'est des carrières courtes, et je pense que ça peut être un tremplin et un passage intéressant pour des gens en mal de repère. Donc voilà, j'ai été agréé peintre des armées, et je vais travailler à la dimension citoyenne de l'armée, et en quoi l'armée, pour un temps, peut-être fournir un cadre dans cette société.
Alors, pour revenir à l'art de s'effacer, paru chez Pyramide, de Christian Guémy, donc ces lettres qui nous emportent, ce qu'on peut voir aussi, c'est ton chemin personnel, et comment ce besoin de reconnaissance qui peut exister à un moment donné, parce que, comme tu l'évoquais, tes repères personnels étaient un peu compliqués, comment l'art t'a permis de ce besoin de reconnaissance tout en n'étant un peu en retrait. C'est aussi le côté street art, c'est ce que tu évoquais, le fait que ça soit dans la rue, que ça soit pas le milieu des galeristes, ça c'est quelque chose qui n'était pas forcément
agréable.
Mais ça t'a permis, à un moment donné, où tu en avais besoin, de trouver une place, de trouver cette reconnaissance, peut-être de reconquérir aussi cette estime de toi qui n'était pas forcément très, très vaillante.
Là, conquérir tout court, ouais. Parce que j'avais absolument aucune estime de moi-même.
Et que maintenant, tu peux, justement...
J'en ai pas beaucoup plus, ouais. La question a été évacuée. C'est pas tant que je m'estime davantage aujourd'hui que j'ai pu m'estimer il y a 20 ans, même si, quand même. Davantage, oui, heureusement. Parce que j'ai pas le même bilan, non plus. Mais c'est une question qui a été évacuée. Bon, c'est vrai que je me suis lancé dans la création de pochoirs à une période de ma vie où tout n'était qu'échec. Et un échec plus que cuisant, avec des dommages collatéraux importants, parce que évidemment, un malheur ne vient jamais seul. Quand on échoue, on entraîne autour de soi beaucoup de souffrances. Et ensuite, c'est un cercle vicieux, la souffrance qu'on inflige aux autres, surtout lorsqu'on a une certaine forme d'empathie, ne fait que dégrader l'image qu'on a de soi, et que cette image dégradée, évidemment, est le terreau pour de nouveaux échecs.
Ça s'emballe.
Et il y a eu un moment où ça s'est fait comme ça, psychologiquement, psychiatriquement, je ne sais pas, par une forme de schizophrénie qui est propre à la plupart des artistes, je pense. Il a fallu que je me dédouble. Et que je me dise, tiens, ben voilà, peut-être que si Christian Guémy parvient à rien, sinon à faire souffrir autour de lui et à souffrir lui-même, peut-être qu'un artiste qui s'appellerait C215 pourrait, lui, avoir d'autres attributs. Et c'est vrai que lorsque je me suis lancé là-dedans, sans savoir où ça me menait, sans projet réel, c'était une sorte d'urgence du quotidien, eh bien, il s'est avéré que C215, en repartant à zéro, pouvait lui réussir là où Christian Guémy aurait sans cesse échoué. Tout a réussi en quelque sorte à ce fameux C215. Et je me suis laissé... draguer, tirer par cet artiste, et qui a été une sorte d'exosquelette.
Oui, c'est ce que j'allais te dire exactement. C'est l'image que ça m'évoque, en tout cas.
Et peu à peu, à l'intérieur, comme une jambe qui se répare dans un plâtre, j'ai fait ma convalescence derrière ce C215. Et aujourd'hui, si c'est un fait, j'ai plus besoin de lui.
Alors. J'allais revenir très, très en arrière, puisque, d'une certaine manière, le déclencheur, c'est une expo à Beaubourg, dans un état proche de l'Ohio, si j'ai bien compris.
Ah ouais, j'étais au lycée, j'étais sous acide avec ma classe.
Et t'as vu le cavalier bleu.
Ils m'ont perdu devant le cavalier bleu, quoi.
Tu t'es perdu, mais tu t'es trompé, d'une certaine manière.
Ouais, ce cheval, il bougeait, tout son père, tout... Parce qu'il faut quand même savoir, bon, c'est il y a longtemps, c'est il y a maintenant, faut que je calcule, 35 ans, quoi, à peu près 35 ans, donc c'est révolu. J'avais pas mal de problèmes avec les toxiques et d'addiction. Et lorsqu'on est sous acide, en fait, les choses, il y a une dissociation des éléments entre eux qui font que les choses vibrent et bougent. Et, un peu comme aujourd'hui, on peut, par certains logiciels, transformer une photo en photo 3D. Eh ben c'est pareil, la rétine dissocie les éléments les uns des autres. Donc j'étais complètement rentré dans ce tableau qui bougeait et qui s'animait. Et ça, je suis resté peut-être une heure ou une heure et demie. Ils me cherchaient partout dans le musée, ils m'ont retrouvé là et j'avais été figé. Et c'est vrai que Franz Marc, à qui j'ai rendu hommage dans un devoir, dans un mémoire de DEA, qu'on appellerait master aujourd'hui en Sorbonne, longtemps après, c'est une source d'inspiration importante pour moi, parce que c'est un peintre animalier, bien sûr, extraordinaire, qui a subi quand même nombreuses influences, cubistes, futuristes et fauves, qu'il a synthétisé dans son œuvre. Et de par le fauvisme, une exacerbation des couleurs hyper intenses qui ont été à la base de mes influences dans l'exacerbation de mes propres couleurs à la fin des années 2000. Je suis revenu aux sources, et lorsqu'on je peins des chats ou des tigres ou des choses comme ça dans des univers extrêmement saturés, on peut croire que c'est du street art, mais c'est surtout l'influence de Franz Marc.
Oh, il y a eu d'autres influences. Là, récemment, Mucha a été convoqué.
Oui, de toute façon, avec un parcours universitaire en histoire de l'art et une passion pour l'histoire de l'art, c'est sûr que mes références, elles sont multiples. Hein. Caravage, Mucha, Rockwell, tout un tas d'artistes que j'adore et que j'ai rendu hommage dans mon travail. Mais c'est vrai que Franz Marc, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, sans faire de jeu de mots, et qui est aussi par sa mélancolie. Parce que c'est un artiste qui s'est suicidé. On peut le dire comme ça. Puisqu'il était capitaine dans l'armée allemande et qu'à Verdun, en 1916, tout à coup, son unité l'a vu monter sur son cheval et avancer seul sur les lignes ennemies. Et ça, c'est vraiment une question qui m'a toujours troublé. Lui-même était un grand épistolier. Puisque l'essentiel des écrits qu'il nous a laissés, sur lesquels j'ai travaillé, était constitué de lettres qu'il envoyait à sa femme Maria ou à Kandinsky, dont il était le complice dans le groupe du Cavalier Bleu. Et ses réflexions sur l'art, elles étaient extrêmement vivantes, elles étaient adressées. Il avait besoin, comme ça, de s'appuyer sur sa femme, une femme consolatrice en quelque sorte, ou cet ami qui était à la fois un ami et un rival. Et donc, je me suis retrouvé un peu là-dedans, dans l'art de s'effacer.
Alors, tu vois, quand j'ai lu l'art de s'effacer, alors ça m'a frappé, et j'ai pensé aussi à Steve Dagerman avec notre besoin de consolation. C'est si difficile à rassasier. Avec même chose, cette démarche de cet opus qu'il a pu écrire, qui est très positif, où il va chercher plein d'éléments pour continuer de vivre malgré tout, bon, sachant qu'il s'est suicidé quelque temps après. Mais c'est un peu du même procédé, l'art de s'effacer, c'est-à-dire comment on se reconstruit, comment on continue malgré tout, et comment on en arrive à un certain moment. Il y a un mot que je n'ai pas trouvé dans le livre, et pourtant je trouve que ça résume assez bien ton parcours, c'est le mot harmonie.
Oui, c'est vrai que c'est un mot important, et c'est vrai que je ne l'ai pas glissé dans le livre. Alors pour ce qui est de Dagerman, on en a parlé plusieurs fois depuis, je n'ai pas lu. Et il va falloir, parce que je connaissais pas. Et c'est la troisième amie qui vient me faire la comparaison. Il va falloir vraiment que...
Je te l'envoie.
Donc voilà, j'espère que ça va mieux se passer pour moi. Voilà. Je pense que ça va mieux se passer pour moi. Je pense que je suis passé au-delà du suicide. Je pense que les questions... je pense que le suicide s'est révolu pour moi, en tout cas. Que c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, puisque je suis l'enfant d'une mère suicidée, orphelin d'une mère suicidée quand j'avais 5 ans. Que dans ma vie, malheureusement, surtout plus jeune, j'ai eu plusieurs tentatives de suicide. Que je pense aussi que la période que j'ai connue à mon adolescence de toxicomanie, ça relevait de l'autodestruction, d'une autodestruction suicidaire. Et que je me suis construit, et je me suis construit aussi des engagements. J'ai eu besoin de m'engager, notamment dans la paternité. Qu'il y a un moment où c'est ça aussi qui est chouette, un père c'est quelqu'un qui s'efface pour ses enfants. Et que quand on est engagé et qu'on a un devoir paternel ou maternel vis-à-vis de ses enfants, bon, ma maman a fait ce qu'elle a pu, mais... Non, pour mes enfants, il n'en est pas question. Et puis, quand bien même tout s'écroulerait, je vois pas l'intérêt d'en finir, en quelque sorte. Vaut mieux subir son opprobre et sa déchéance. Ça, c'est chouette aussi, de la déchéance.
Tous les moments sont pas en haut.
Ce qui est beau à mon sens dans la vie, c'est pas seulement la réussite. C'est ça qui est terrible dans la modernité, c'est qu'en fait il y a une mise en avant extrême de la réussite et un étalage de réussite permanence. Les salaires des uns, des autres, des grands protagonistes du football, du succès. Il n'y a de place, c'est vraiment, il n'y a de place que pour les gagnants.
Les gagnants, le plein.
Oui, le plein.
Oui, le plein, tout le temps plein, plein de tout, tout le temps l'excès.
Ce qui est saillant, ce qui dépasse, ce qui est, donc, ce qui est saillant. Mm-hmm. Et moi, je me passionne pour, finalement, la médiocrité. Et quelque part aussi, ce qui fait notre quotidien à tous, c'est-à-dire tout un tas d'erreurs, de petites infamies qu'on commet les uns les autres et dont on ne se vante pas.
La jarre fêlée qui laisse entrer la lumière.
Voilà, tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on ne racontera pas, voilà, c'est ce qui peut à la limite faire rire, mais qui n'est pas toujours très drôle. Voilà, mais toutes nos erreurs, tous nos remords. Jamais, jamais, jamais quelqu'un fera un livre en faisant la somme des choses qu'il a à se reprocher. Alors que finalement, j'ai pas été très courageux parce que j'aurais dû faire ce livre-là. Mais je suis pas masochiste. Je suis pas masochiste. Donc j'ai pas spécialement envie dans une société qui est très injuste et qui précisément actuellement juge énormément et.
Tu vas pas donner en pâture non plus.
Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. À quoi bon? Ça serait peut-être même assez pervers. Voilà.
Oh,
ce livre que tu as écrit, donc ces lettres dans l'art de s'effacer, bon, on ne va pas dévoiler leur contenu. Je crois que c'est à chacun de faire son chemin. Puis je te dis, le chemin du lecteur est important. Moi, il m'a interpellée au-delà de ton parcours personnel, artistique, parce que j'ai été frappée, émue par ta capacité de pardon, d'acceptation et d'amour.
Et... En fait, je pardonne parce qu'on m'a pardonné. Je pense que le pardon, c'est une effusion réciproque. J'ai la chance, tout comme mes œuvres, d'être épargné et d'avoir été épargné par plein de choses, mais pour tout un tas d'erreurs et pour tout un tas de choses qui, finalement, que moi, j'ai du mal à me pardonner. Mmh. Écoute, je vais te dire quelque chose. Je suis catholique. J'ai été baptisé... Alors là, les auditeurs vont dire, le mec fait des trucs pour l'armée, il est catholique, qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Mais peu importe, parce qu'au contraire, je pense que c'est important. Je suis catholique. J'ai été converti, on ne dit pas je me suis, on dit j'ai été converti au catholicisme à l'âge de 18 ans, alors que j'étais toxicomane. J'ai patienté à l'âge de 27 ans pour me laisser baptiser. Mm-hmm. Ça, c'est très orthodoxe, hein, me laisser baptiser. Mm-hmm. Et je ne suis allé à la confession qu'une seule fois. Et je devais avoir 45 ans. Mmh. À 45 ans, je me pointe devant ce curé, parce que je suis pas très proche de l'institution. Hein. Mais pourtant, dans mon cœur, oui, mais dans la proximité physique, non. Et je viens et je lui raconte, je lui dis, bon, voilà, et j'ai fait ça, il y a ça, et ça, et ça, et ça, et ça, ça dure, c'était un truc incroyable, des trucs quand même très durs. Tout ce que, des choses les plus évidentes que je pouvais avoir à me reprocher dans ma vie. Et je lui dis, voilà, je suis jamais venu me confesser, je vous raconte tout ça. Il dit, ah, ben, je comprends, vous en portiez lourd. Je dis, non, en fait. C'est pas ça que je suis venu vous confesser. Ce que je suis venu vous confesser, c'est que je n'ai jamais réussi à me pardonner. Et c'est pour ça que je suis jamais venu. Mmh. Et y a dans cette anecdote quelque chose d'important, c'est qu'en fait, il faut aussi, pour avoir beaucoup de pardon envers les autres, avoir une petite indulgence vis-à-vis de soi-même. Mmh. Et c'est pas toujours évident. Mmh. C'est pas toujours évident d'avoir une indulgence vis-à-vis de soi. On est dans une société qui prône tellement la réussite et qui prône tellement l'excellence et l'infaillibilité.
Oui, le marche au crâne.
L'infaillibilité, que j'ai bien peur que les nouvelles générations elles soient extrêmement intransigeantes vis-à-vis d'elles-mêmes. Mmh. Et que ça crée des générations de gens qui se détestent.
Et pas forcément à bon escient.
Ouais. Qui se détestent, qui vont finir par se détester elles-mêmes, parce qu'elles n'auront pas l'excellence, parce qu'elles n'auront pas été infaillibles.
Alors qu'elles ont en elles des choses remarquables.
Elles ont des choses remarquables. Et que du fait qu'elles se détestent elles-mêmes, que ces personnes soient amenées à se détester elles-mêmes, soi-même,
elles détesteront
les autres. Ouais. Et si je peux pardonner certaines choses, peut-être dans des choses que j'ai pu vivre dans mon enfance, assez dures, objectivement assez dures, mais c'est quand même aussi parce que finalement je trouve que les gens sont plutôt gentils et que tout le monde est plutôt... le monde est gentil, hein, contrairement à ce qu'on...
Alors je vais rebondir sur ce mot parce que pour moi il est extrêmement important, parce que moi on me qualifie tout le temps de bisounours, tu vois, quand je dis que pour moi le plus important c'est la gentillesse.
Il faut être gentil, voilà. Gentil, méchant, c'est des mots importants.
Hein. Oui, mais maintenant quand tu dis « Ah, elle est gentille », sous-entendu... C'est une conne, il y a un côté péjoratif associé maintenant au mot gentil.
Comme brave.
Et moi, tout à fait. Et moi, je réfute totalement ce sens-là. Je veux qu'on revienne, je veux qu'on puisse dire gentil.
Oui, c'est hyper important. C'est comme le mot brave. Ouais. Oh, c'est un brave type. Mais quel compliment que cette bravoure, qui permet de surmonter les choses et de se relever sans cesse. Gentil, oui. Je pense à ma belle-mère, qui est quelqu'un qui m'a aussi fait beaucoup de bien dans ma vie, ou ma femme, qui sont des personnes tellement gentilles et qui m'ont montré qu'on pouvait vivre sans hostilité, sans être sans cesse dans le parangon, dans la compétition. sans voir le quotidien comme un combat ou une guerre avec autrui, et en fait qui sont vulnérables, mais qui savent se protéger, qui se tiennent, qui ont une modestie écrasante, qui m'écrasent par leur modestie, par leur gentillesse, par la bienveillance qu'elles peuvent avoir. C'est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui que de restaurer ces valeurs-là, alors qu'effectivement les valeurs dominantes c'est comment on écrase les autres, comment on affiche sa fortune, comment on affiche sa performance, comment on affiche ses statistiques, comment on installe sa domination.
Et là on peut en revenir brièvement au marché du street art, parce que tu l'évoques aussi dans L'art de s'effacer, et de voir à quel point ça a été récupéré, comment les prix ont été montés, forcés par des jeux de galeristes et de certains artistes. Et on voit des trucs quand même assez aberrants. Tu parlais tout à l'heure de Aubet, c'en est l'exemple type.
C'est pas le pire.
Non, c'est pas le pire. C'est pas le pire. Bon, on a évoqué Banksy.
C'est quelqu'un très gentil.
Oui, oui, oui.
Pour bien le connaître, c'est quelqu'un qui est très gentil et qui est très bienveillant. Et qui finalement est certainement l'un de ceux pour lequel l'œuvre est la plus transparente.
À
titre personnel, je sais que ça va être, comme on dit maintenant sur le réseau, unpopular opinion. Ça va être très impopulaire, mais l'un des types les plus cyniques aujourd'hui sur le marché, c'est Banksy.
Bah, évidemment, il est complètement ambigu, de toute façon.
Il se fout de la gueule du monde. En prétendant dénoncer le capitalisme alors qu'il organise lui-même en tout cas la spéculation.
C'est très médiatique. Très
médiatique. Là je laisse chacun apprécier comme il voudra, mais ne serait-ce qu'actuellement, ça, je pense qu'il faut que ça se sache. Actuellement, voilà, il y a le retour de la porte du Bataclan sur lequel il y a un procès parce que le propriétaire du bâtiment veut la vendre, tout simplement. La mairie de Paris et d'autres institutions mémorielles autour de l'attentat du Bataclan tentent de faire en sorte qu'elle soit rendue inaliénable et qu'elle puisse être offerte à la mémoire de l'attentat du Bataclan, qui était supposé être l'intention de Banksy. Il y a eu de multiples recours pour s'adresser à lui par toutes les voies les plus simples et les plus sur lesquelles il est. Et il ne donne évidemment pas suite pour pouvoir dire laisser la porte se vendre plusieurs millions d'euros et pouvoir dire voilà, les spéculateurs, alors qu'ils pourraient aujourd'hui. Banksy pourrait intervenir très facilement pour dire non, cette porte, j'ai un droit de suite et je tiens pas à ce qu'elle soit aliénée et qu'elle soit vendue, mais non, il le fait pas. Tout est comme ça, c'est-à-dire qu'on il va organiser le scandale de la vente publique de la, il va co-organiser par sa passivité manifeste. La vente publique de la porte mémorielle de l'attentat du Bataclan qu'il a peinte sur le Bataclan. Tous les recours possibles ont été faits pour s'adresser à lui et lui demander de simplement signifier, ne serait-ce que par les réseaux,
d'une manière ou d'une autre.
Ce qui pourrait en justice empêcher cette vente, mais non, la vente aura bien lieu parce qu'il ne l'aura pas empêchée et il pourra la déplorer ensuite de manière très hypocrite. Banksy, c'est ça. C'est quelqu'un qui passe son temps à organiser les choses qu'il dénonce.
Ouais.
Et ça, moi, en tout cas, je suis étranger à ça et je ne suis pas capable de ça.
Heureusement.
Ce n'est pas mon karma. Je n'y arrive pas. J'ai ma vie d'artiste qui est une vie au quotidien simple. J'ai plus ou moins gardé la même vie, même si j'ai plus de confort, plus d'espace, plus de moyens pour travailler. Mais j'ai gardé à peu près la même vie, le même quotidien qu'il y a 20 ans. Je vis dans le même périmètre qu'il y a 20 ans, j'ai pas bougé. Je pourrais aller vivre dans le 7e arrondissement ou dans le 17e. Je suis toujours dans mon 94, avec les mêmes amis, les mêmes bars, les mêmes fréquentations. Voilà. Et puis le même quotidien, les mêmes fringues, la même esthétique, le même discours plus ou moins. C'est mon karma, je suis heureux là-dedans. Je pourrais pas mener une vie de people. D'ailleurs, je pourrais pas. Je pensais agir. Il le fait très très bien. Ils ont un talent pour faire ce qu'ils font, tous ces gens-là. Je pourrais pas passer une soirée avec Madonna. Elle s'emmerderait, moi aussi. J'imagine l'ennui de Madonna si elle passait une soirée avec moi. et mon ennui si je passais une soirée avec elle. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut accepter que chacun soit à sa place. Même avec eux, j'ai une... Bon, Banksy, ça me gêne parce que je pense qu'il y a des victimes. Mais pour d'autres, non. J'admire JR pour ce qu'il fait. Je suis incapable de faire ce qu'il fait. Il mène une vie mondaine. Que si même demain je me décidais de mener cette vie-là, j'y parviendrais pas. J'y accéderais pas, j'y parviendrais pas. Donc,
faut être équipé pour, quoi.
Voilà, je suis pas prêt. C'est un talent que j'ai pas. C'est un talent que j'ai pas. Et ce que j'ai pu évoquer du marché de l'art ou des stratégies de certains de mes confrères ou dans ce livre, même si c'est pas l'objet du livre, hein, c'est juste quelques lignes, c'est important de le préciser. Je le dis aussi avec indulgence parce qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, je me sens pas dépossédé de quoi que ce soit. Il n'y a pas de frustration. Je vois que chacun a son succès, son karma, la vie d'artiste qu'il a voulu mener. Mmh. Et s'il y a une harmonie, puisque tu disais harmonie, c'est que je me sens en harmonie avec la mienne.
Mmh. C'est ce que je sens à la
avec ma médiocrité. Voilà, je suis pas le plus
avec
riche, je suis pas le plus performant.
Avec tes qualités, c'est un équilibre.
C'est ma vie.
Voilà, c'est comme ça.
C'est la mienne, c'est ma place.
Une acceptation.
C'est ma place. Mmh. Je suis à ma place. Ils sont certainement à la leur. Voilà, c'est normal que sur ce grand échiquier ou ce grand théâtre qu'est la vie et une scène artistique donnée, on est chacun des personnages différents. Je me sens plus tribun de la plèbe que sénateur. voilà quoi.
Il y a aussi chacun fait avec ses racines.
Ouais, mais je pense être en conformité avec ce que je suis. Ouais. Mmh. Voilà. Et c'est ce que je souhaite à chacun. Parce qu'en fait, on fait tous des arbitrages, on ne peut pas tout avoir. J'aurais pu être plus riche, j'aurais pu avoir davantage de notoriété, j'aurais pu être. Mener une vie différente. Mais ce qui est important, c'est qu'on soit plombier, qu'on soit ouvrier, qu'on soit boulanger, qu'on soit artiste, c'est la même chose. La seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que j'ai mis en priorité les choses qui comptaient vraiment pour moi ? Donc oui. C'est un appel à bien se connaître.
Oui, et puis à trouver ce qu'il y a en soi qui est important.
Oui. Mais il y a des choses... c'est important, je pense, vers 50 ans, de faire cette mise au point, pour les uns comme pour les autres. Mmh. Et si on a la chance de comprendre à 50 ans qu'on est exactement là où on devait être, je pense que ça peut rendre serein.
Ouais,
notamment d'envisager une cessation d'activité à venir... Moi, je ne me vois pas à 70 ans aller taguer dans les rues. Quoi. Une cessation d'activité pour profiter du temps qui nous reste et de notre environnement et de notre famille quand on a la chance d'en avoir une. Des enfants quand on a la chance d'en avoir. Moi, j'ai deux enfants. Enfin, j'ai un aîné qui a maintenant 19 ans et qui est parti dans la vie, là, ça y est. Donc, je fous la paix. On se fout la paix, on va dire. Mais là, j'ai deux petits qui viennent d'arriver. Malou, qui a 18 mois. Il y a Gabin, qui a 3 ans et demi. Et je pense qu'aujourd'hui, la priorité, ça va être de les accompagner et de profiter d'eux. Peut-être davantage que j'ai pu profiter de l'aîné, ouais.
Alors, pour terminer, on va dire un mot d'actualité. Pour les gens qui éventuellement ne te connaîtraient pas et auraient envie de te voir, parce qu'il y a une exposition qui va commencer le 17 janvier, c'est ça ?
Alors, il y a une exposition
au
musée de la franc-maçonnerie au Grand Orient, sur des figures que j'aime. Je ne connaissais pas la franc-maçonnerie, je ne suis pas franc-maçon. C'est vrai que mon travail m'a permis d'explorer tout un tas d'univers que je découvre. L'année dernière, je découvrais l'Ordre de la Libération. Je découvre celui de la franc-maçonnerie. Donc c'est une exploration, mais c'est l'occasion pour moi de présenter des figures historiques que j'admire et que j'adore. Ça va de Allende à Condorcet, à tout un tas de figures, de Brossolette, tout un tas de Louise Michel, tout un tas de gens passionnants, en tout cas qui eux ont été, qui ont navigué dans la franc-maçonnerie. Donc il y a cette exposition qui s'inscrit dans le 250e anniversaire de la création du Grand Orient, avec des gens que je découvre. Voilà, c'est une vraie rencontre parce que je pense qu'ils découvrent aussi un univers autant que je découvre le leur. Et ensuite, c'est un événement, en tout cas là pour le coup, qui est un aboutissement important. J'expose aussi à l'hôtel de Lasset, à partir du 31 janvier donc à l'Assemblée nationale. Une exposition qui est organisée par la présidente de l'Assemblée nationale, notamment pour un triste anniversaire, puisque on y présente des photos, des œuvres que j'ai réalisées en Ukraine au début du conflit, en mars et en avril dernier, lorsque je me suis rendu par deux fois là-bas, juste derrière le front, quand les Russes encerclaient complètement le pays, puis lorsque j'y suis retourné, notamment pour aller peindre à Irpin et Bouchra, lorsque les Russes ont commencé à reculer. Donc on y présente ces œuvres-là pour les 1 an de l'invasion, et aussi pour l'accueil du président de l'Assemblée nationale ukrainienne à Paris, qui aura lieu le 31 janvier. Et donc voilà, c'est la boucle est bouclée. Je suis content aussi de continuer à travailler sur des valeurs comme celle de la résistance, puisque ça fait écho à l'exposition que j'avais fait aux Invalides au Musée de l'Ordre de la Libération l'an dernier. Donc la résistance, et puis voilà, rendre hommage à ce peuple. Moi, j'ai été absolument subjugué par toute la dignité, la résilience et la force, le sang-froid, le calme sur place qui témoignent face à cette agression. Je me suis rendu sur place à Bouchra et à Irpin aussitôt après la libération pour y peindre des œuvres modestes, des petits oiseaux. Il n'y a pas de profanation. J'ai vraiment essayé de rester dans des œuvres extrêmement subtiles, de petite taille, et qui perturbe pas l'environnement, dont on ne sait pas ce qui sera sacralisé de tout ce qui s'est passé, des atrocités qui ont été commises par les Russes. Et j'ai vu des gens à la fois résignés, mais je crois que j'avais jamais vu des humains dans un tel état. Une peau blafarde, des yeux sans éclat, des gens qui ont été torturés par les Russes. Le plus souvent des femmes âgées et pauvres, évidemment, qui n'avaient personne ou qui ne pouvaient pas s'éloigner de leur lopin de terre pour manger, ou qui n'avaient pas les moyens de s'exiler. Et pour elles et pour eux, pour ceux que j'ai vus, je suis heureux de faire cette exposition. Je retournerai en Ukraine, notamment pour faire une grande fresque au printemps. Et donc je suis heureux de réaliser cette exposition-là, dans ce cadre-là, avec le soutien de la République par son assemblée, et pour rendre hommage aux Ukrainiens. J'en profite pour dire qu'ensuite, ça sera peut-être un peu plus calme, et que j'en suis très heureux.
Merci Christian, en tout cas, ça s'appelle L'art de s'effacer, c'est de Christian Guémy, c'est 215, et c'est paru aux éditions Pyramide. Il y a plein de choses à découvrir dans ces lettres. On a parlé autour, mais on n'a pas parlé complètement du contenu, parce que je crois qu'il faut cheminer dans le texte.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci. Thank you.
C'est toujours Radio Libertaire, c'était Christian Guémy qui nous parlait de L'art de s'effacer, paru chez Pyramide, et de bien d'autres choses encore. On retrouve tout de suite la chronique de Gérard Guégan qui va aborder donc Mes Fragiles de Jérôme Garcin, paru chez Gallimard, et Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson, paru chez Julliard. Radio Libertaire 89,4 MHz et on retrouve la première chronique de l'année de Gérard Guégan. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de deux ouvrages. Tu vas nous parler de Mes Fragiles de Jérôme Garcin qui est paru aux éditions Gallimard et tu vas nous parler de Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson paru chez Julliard. Tu commences par lequel ?
Je commence par Jérôme Garcin. Comment dire ça ? Je l'ai lu trois fois, et chaque fois j'ai été aussi foudroyé que la première fois, parce que ça touche à l'essentiel, c'est-à-dire à la vie, à la mort, et à la maladie en même temps. Donc toute chose qui nous menace et auquel on est sensible, soit directement, soit parce que ses enfants, ses proches, ses parents... sont en train de mourir ou vont mourir, et il y a une maladie. Donc, mais Fragiles, ça le dit bien, quoi. C'est un titre très étonnant, d'ailleurs. C'est plutôt un titre de chanson, je pensais à ça la dernière fois que j'ai relu ce livre, une chanson de Barbara, sur laquelle, d'ailleurs, Garcin avait écrit, je crois, un livre, ou en tout cas un essai sur Barbara, que je n'ai pas lu, mais je crois me rappeler de ça. Et parce que c'est un titre qui est, c'est pas un titre littéraire au sens de facile à retenir. C'est un titre qui demande un effort de mémoire, mais fragile. Parce que est-ce que c'est le mais M-A-I-S et donc ça serait un avertissement, ou est-ce que c'est confession? Parce que c'est ni un roman, ni un récit, encore moins un essai. Donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui me foudroie et qui va en foudroyer, à mon avis, plus d'un et plus d'une, évidemment? C'est l'aveu, c'est la maladie, c'est la mort. Voilà. Donc, Jérôme Garcin, cette fois-ci, nous raconte une histoire vraie, mais toutes les histoires sont vraies à partir du moment où on la croit vraie. Donc, une histoire qui est l'histoire de sa famille, c'est-à-dire qu'à quelques mois d'intervalle, sa mère et son frère sont morts. L'une, la mère de vieillesse, donc c'est une mort pas programmée, mais une mort à laquelle on s'attend quand on voit quelqu'un vieillir, quand on voit quelqu'un s'approcher de ses 90 ans, etc. On pense que quand même l'éternité n'est pas pour demain, c'est tant mieux. Nous sommes périssables et nous devons périr. Et donc il y a la mère et il y a le frère. Et le frère est atteint d'une maladie dégénérative qui s'appelle le syndrome de l'X
fragile,
le chromosome X fragile, hein, c'est ça?
Oui.
Voilà, toi qui es médecin, disons-le. Je pense que tous tes auditeurs savent que tu es médecin. Donc voilà, il s'agit de ça. Et la mère, par bonheur, si on peut dire, parce qu'elle est très attachée à Jérôme, mais surtout à ce fils-là qui s'appelle Laurent. Tu te rends compte, j'ai d'un seul coup un doute. Oui, c'est Laurent, évidemment. Tous les prénoms se confondent dans ma tête. C'est une telle mélange, telle tragédie. Et c'est vrai que si ce garçon était mort avant sa mère, comme le... on le sait, Garcin avait un jumeau. Et son jumeau est mort, renversé par une voiture, conduite par un chauffard. Il y a facilement 50 ou 100 ans, puisque Garcin a 65 ans aujourd'hui, 66 ans. Donc le jumeau, un jumeau qui meurt sur deux, c'est déjà, chacun le sait là aussi, une une vraie tragédie. Donc c'est une tragédie qui marque. Et là-dessus, il va découvrir petit à petit, lui qui est d'une grande famille de médecins, depuis au moins un siècle et demi, ils se succèdent tous là autour de son berceau, il va découvrir.
Le petit garçon ne dit rien.
Si le vieux singe à bois offre lui des bananes,
l'enchanteur Merlin se changea en chat. Le petit garçon bâilla,
offre lui des bananes.
L'enchanteur Merlin se change en chat, chita. Le petit garçon rebâille.
Offre-lui des bananes.
L'enchanteur Merlin se changea en souris, en souris, en souris.
Si le vieux singe à bois.
Le petit garçon s'endormit.
Offre-lui des bananes.
Moralité. Il n'y a plus d'enfants.
Ils avaient dans la tête tout un monde. Ils regardaient la terre, les rues et les chemins. Tout cela était vide et le silence. Continuait toujours. Un sentiment de malaise inexprimable commençait donc à fermenter dans tous les cœurs. Alors, il s'assit sur un monde en ruine et une jeunesse soucieuse. Ainsi la jeunesse de France à qui l'on demanda « Mais à quoi crois-tu ? À quoi crois-tu ?» La jeunesse de France répondit la première, à rien. Je suis enfin de droit de passer.
Fils du coup, qui est d'un tout nouveau groupe, formé par...
Cache et montre au cœur qui s'étonne la vérité comme une étoile. Elle dit l'avoir reconnue que la bonté c'est notre vie, que de la haine et de l'envie rien ne reste, la mort venue. Elle parle parle aussi de la gloire, d'être simple sans plus attendre, et de noces d'or, et du tendre bonheur d'une paix sans victoire. Accueillez la voix qui persiste dans son naïf épitalame. Allez, rien n'est meilleur à l'âme que de faire une âme moins triste. Elle est en peine et de passage, l'âme qui souffre sans colère. Et comme sa morale l'éclaire, écoutez la chanson bien sage. Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de l'amour.
It's your smoke.